souhaite, ni Dieu, ni maître, ni Dieu, ni maître, pas vrai maître.
Je suis un marginal, un artiste ou pas charrier, s'il vous plaît, je peux pas. Marginal.
Janine Marc Peset, Michel Alain Barjou, Alain Poulange, Serge Gainsbourg et Léo Ferré.
Ni Dieu, ni maître.
L'eau à la bouche, c'était en 1960, juste 2 ans après les débuts discographiques de Serge Gainsbourg. L'envie de réussir, les temps qui changent à une vitesse vertigineuse, et le style Gainsbourg s'adapte, se plie aux lois des modes et du marché. 1960, la chanson devient un art pour les mineurs, rejetant loin en arrière tout ce qui a précédé, et pourtant...
J'habite à Saint-Germain-des-Prés et chaque soir j'ai rendez-vous avec Verlaine. Ce vieux Pierrot n'a pas changé. À
Saint-Germain-des-Prés, Léo Ferré, 1953, une chanson que l'on retrouve sur la réédition Le Chant du Monde, intitulée Première chanson. Léo Ferré est connu avant ses premiers disques, grâce au cabaret. Léo Ferré, dès ses premiers 78 tours, installé dans la marge et la provocation. Écoutez, l'émission s'appelait Message de France et c'était le 21 juillet 1950.
J'ai en face de moi Léo Ferré, le célèbre compositeur-auteur, qui a fait ces chansons que beaucoup de gens fredonnent à Paris, Les Amants de Paris, le Saint-Germain-des-Prés, l'île Saint-Louis, Monsieur Tout-Blanc, La Chambre. Et je dois dire que Léo Ferré, s'il se fâche pas, ne ressemble pas à ces chansons, parce que ces chansons sont quelquefois très amères, et lui a l'air très heureux. Il a l'air très heureux, d'abord parce que c'est un Méditerranéen, ce sont des gens qui ont le sens du bonheur. Vous êtes de Monaco?
Je suis de Monaco, mais je voudrais relever tout de suite quelque chose que vous venez de dire, si vous voulez... Vous n'êtes pas dire célèbre compositeur, en effet je suis très célèbre, puisque je suis d'abord célèbre parce que je le mérite, n'est-ce pas? Et puis d'autre part, j'ai beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Et je suis d'ailleurs venu avec une Delahaye Grand Sport qui m'attend en bas. Je pars demain en Afghanistan, non pas en Delahaye mais en avion. Voyez-vous, je suis un homme très heureux et très... je suis arrivé, voilà.
Bon. Vous n'avez pas peur d'aller en Afghanistan demain?
Mais dans l'entrée de plaisanterie. Ça, c'était une parenthèse.
Alors, comment vous êtes venu à la chanson, Léo Ferré?
Ben voilà, il y a longtemps que la musique me travaillait, vous voyez, dans le début, nous parlons comme ça.
Oui.
Et à 14 ans, j'ai eu ma vocation musicale. Voilà, j'ai écrit un jour, j'ai chanté un jour au piano chez moi, le Kyrie d'une messe à 3 voix. Alors, je me suis précipité chez mon père, j'ai dit, papa, je suis compositeur. Vous vous rendez compte de l'effet que ça a produit?
Oui, surtout à 14 ans.
À 14 ans, mon père m'a dit, tu vas retourner au collège et finir ton bachot, nous en parlerons après. Alors, j'ai passé mon bachot, tant bien que mal, n'est-ce pas?
Oui,
et puis après, il fallait que je... Après, alors, j'ai reposé la question. Alors, on m'a dit, ah, mais non, mais tu sais, la musique ne nourrit pas son homme. Et maintenant, et tu devrais faire comme ta sœur. Et écoute, regarde, ta sœur fait la dentisterie. Le dentiste, c'est pas mal. Tu devrais faire comme elle, vous installeriez tous les deux, ce serait pas mal, n'est-ce pas? Le même nom, etc. Alors j'ai fait 6 mois, je dois dire, j'ai fait 6 mois chez un ami à moi qui était dentiste, j'ai fait 6 mois de, comment appelle-t-on ça, de stage oui. Dentaire. 6 mois. Et puis après, j'ai tout laissé tomber parce qu'évidemment, je n'étais pas doué pour ça.
Vous n'avez pas la vocation de souffrir les gens, vous préfériez les faire chanter, enfin, au bon sens du mot.
C'est ça. Alors après, j'ai fait, il n'est pas question de musique parce que ça ne marchait pas toujours, j'ai fait mon droit. Et puis, un beau jour, je suis arrivé à faire de la musique. Et voilà.
Mais cette fois-ci, vous l'avez fait sérieusement, alors?
Je l'ai fait sérieusement. Je dois dire, d'ailleurs, en parenthèse, que je n'ai pas encore de Delahaye Grand Sport, soyez tranquille.
Les machines à sous ont le ventre doux. La nuit, je m'y appuie en voyant ma vie et mon vieux Béguin.
Créé en 1962 à l'ABC, EP Love, EP prononcé, vous l'avez entendu, hippie par Léo Ferré, prémonition peut-être. Dans la brume, là-bas, je vois un assassin tout empourpré dans le couchant, qui tend l'épaule. Un soleil, ça descend toujours comme un vaurien, ça vous met son couteau entre l'épaule. J'ai peur de ce soleil, maman. Je ne sais rien, ni toi, ni moi, ni eux, ni ce chagrin de l'aube qui me fait chaque fois renaître du destin que vous croyez heureux, qui n'est que machinal. Ma vie est un slalom entre mon mal. Mes cheveux n'ont plus de licole, mes chiens n'ont plus de muselière, et mes hiboux prennent leur vol tout à l'heure à Orly-sur-Terre. Mes araignées font des habits pour les princesses de la mort, mes hiboux, dans les bars de nuit, boivent la mienne au ralenti. Je suis d'ici, je suis d'ailleurs, je ne suis pas et que t'importe à toi, la fille au joli cœur qui s'en va, mesurant ma porte. À peine rabattu sur moi ma porte comme une visière, ombre ma gueule d'où je vois tant de lumière sans lumière. Ma vie est un slalom machinal, machinal. Mon ombre a son soleil qui lui lèche sa trace. Quelle horreur de m'entendre, quelle horreur de gueuler. Quand pourrais-je m'étendre sur une marge nette et regarder passer le texte à la lunette. Être l'indifférent sur le monde accroupi. Le monde fait toujours pipi le cul par terre. L'espoir vaincu, l'espoir debout, l'espoir caché, et puis le désespoir qui lui sert d'arrangeur. Ma vie est un slalom entre mon cœur. Ça pue l'éternité dans ce bar discothèque. L'éternité de la matière à Music Love. Et ces couples muets devant l'imaginaire, cet adultère abstrait encombré de pilules. Au moins, s'ils connaissaient le sacre du printemps. Et moi, qui meurs de froid devant ma page blanche. Mes idées sales, Jacques Dutronc, Serge Gainsbourg. Les idées sales mises au propre, on peut se figurer que Gainsbourg et Ferré en ont souvent fait les frais. Lorsqu'on affiche sa différence, son indifférence et parfois son mépris, lorsqu'on manie l'humour ou les idées comme d'autres, la morale ou le respect, on s'expose, ça c'est certain, à la médiocre méchanceté ambiante.
Est-ce que vous lisez souvent les journaux, Léo Ferré ?
Non. Très, très rarement. Enfin, des grands, des titres comme ça, les journaux sont... Il y a tellement peu de journaux qu'on devrait lire au fond.
Mais est-ce que ça tient aux journaux ou est-ce que ça tient à votre nature ? C'est-à-dire, est-ce que vous n'êtes pas a priori enclin à lire le journal ?
Non, c'est parce que les journaux m'ont lassé, quoi. Ils sont toujours très sympathiques, les journalistes, vous savez, quand on les voit. Et puis quand on les voit plus, ils réinventent leur métier, je pense, et puis ils deviennent, ils sont tout seuls devant la page blanche. Et je suppose que cette solitude les rend maussades d'abord. Et puis, comme ils ne sont pas tous très intelligents, ils viennent méchants. Alors déjà, moi je connais beaucoup de journalistes qui sont très sympathiques, comme ça, avec qui on fraternise. Et puis lorsqu'ils sont partis, ils redeviennent ce qu'ils doivent être. Je pense qu'ils sont méchants. Ça m'est arrivé il y a quelques jours. Alors maintenant, ça veut dire que maintenant, que ce soit les bons ou les mauvais, j'essaie de ne plus les lire. Les bons non plus, parce que, au fond...
Là aussi, il y a deux catégories de journalistes. Il y a ceux qu'on appelle les critiques, c'est-à-dire qui se situent toujours plus ou moins sur le plan esthétique, ou enfin sur ce qu'on a coutume d'appeler l'esthétique. Oui. Et puis il y a les écotiers. Et dans votre métier, précisément, vous êtes en but aux deux.
Oui, alors les écotiers, n'en parlons pas. Les écotiers racontent... les échos qui sont toujours faux, la plupart du temps. Et puis, cela dit, il y a des gens qui font très bien leur métier, hein, c'est-à-dire. Et puis, il y a les critiques, les gens qui sont depuis des années dans une place.
Il est évident que dans le système actuel, on ne conçoit pas une profession comme la vôtre ou celle d'écrivain. Vous êtes d'ailleurs aussi écrivain, on va y revenir, mais on ne conçoit pas le métier d'auteur de chansons, d'écrivain, d'acteur, de metteur en scène de théâtre, de réalisateur de films, sans que ce personnage se trouve forcément en face du mur de la critique. Et par ailleurs, on pourrait essayer de, non pas de réinventer, mais de penser à une forme de critique qui serait autre chose que le compte-rendu mondain des scores des différents chimpanzés destinés à distraire le public.
Mais oui, mais alors là, c'est comme vous dites, c'est un nouveau métier à inventer, je pense, une nouvelle... Comment dirais-je... Moi, je pense que la critique, ça, c'est difficile de dire ça, parce que on a l'air de dire que la critique nous vient, c'est pas vrai, mais... La critique, pour moi, ça ne devrait pas exister, parce qu'en définitive, vous savez que dans un théâtre, ce qui marche, c'est d'abord la publicité. Il faut que quelqu'un sache que l'artiste est quelque part. C'est-à-dire que moi, je suis à Bobigny en ce moment, bien, les gens voient, ont vu à la radio, bien, dans la rue, les affiches, Ferré est à Bobigny. Bon, ils ont envie de me voir, ils viennent, parce qu'ils savent que je suis là. Mais les critiques, ça n'a aucun intérêt, parce que la meilleure, comment dirais-je, la meilleure publicité est celle qui se fait de bouche à bouche, c'est-à-dire ce qu'on appelle le téléphone arabe.
L'apport du public dont vous avez besoin, c'est pas la critique qui vous
le
fait.
Mais la critique, c'est le jugement d'un homme sur quelque chose qu'il voit ou qu'il sent ou qu'il ne sent pas, c'est tout. Donc il peut se tromper et il peut avoir une influence néfaste sur les gens. Critique, moi je peux rien dire, mais de toute façon je les aime pas. Je trouve que j'ai dit dans une de mes chansons des tonnes de crachats sur la criticature.
Je ne suis qu'un artiste de variété et ne peux rien dire qui ne puisse être dit de variété. Car on pourrait me reprocher de parler de choses qui ne me regardent pas.
Comme si je vous disais qu'un premier ministre britannique, ou bien papou, ou bien d'ailleurs, pouvait être déclaré incompétent. Je ne vous dis rien qui ne puisse être dit de variété, moi, qui ne suis qu'un artiste de variété.
Ça s'appelle le conditionnel de variété, c'est avec le groupe Zou et c'est en 1970. 20 ans plus tôt, Ferré ne s'affirmait pas encore haut et fort artiste de variété. Avec Madeleine Rabereau, il avait écrit De sac et de corde, diffusé sur le Poste parisien le 5 février 1951. Alors oui, voici le 7e épisode de notre feuilleton, l'avant-dernier extrait de ce récit radiophonique raconté par Jean Gabin avec aujourd'hui Leïla et Ben Sedira. Aujourd'hui donc 7e épisode où nous voyons la vie de l'aventurier au grand cœur basculer dans une réalité si dure que même les rêves peuvent s'y briser.
Que vous dirais-je des prisons? Pour moi, elles étaient sans barreaux, les murs étaient des fenêtres. Pour certains, c'était une étape à brûler, et pour tant d'autres, la haine, la perpétuité. Soulever le toit qui me pesait, je n'étais pas le seul à attendre l'orage. Enfin, ma vie reprit hors de cette prison de malheur. Je passais comme l'or au crible des combines. Cette fois-ci, je buvais la lie avec la coupe. J'étais couché sur tous les registres comme un compte en main courante.
Papier, s'il vous plaît.
Vous avez votre permis de travail.
N'oubliez pas le certificat de domicile.
Préparez vos passeports, monsieur, dame.
Voulez-vous remplir votre fiche, monsieur?
Ah, foutez-moi la paix, état civil du monde. Et je devins Judas d'Europe, ou bien d'ailleurs. Je sus qu'entre un vrai passeport et un faux, il n'y avait pas de différence de nature, l'important étant de penser. Mais une différence d'intention, et que ceci n'avait aucune importance. Parce qu'après tout, quoi? Il suffit de savoir nager pour traverser toutes ces rivières qui se foutaient perdument des barricades préfabriquées. Toutefois, vraie ou fausse, il me fallait une carte d'identité. Oh, j'en eus ma vie durant une bonne centaine. Ce qui me paraît détestable dans la morale, c'est que c'est toujours la morale des autres. Chemin de croix faisant sur les routes du monde, je connus une race d'hommes étranges. Ils portaient la houppelande de leur solitude comme une décoration trop évidente. C'était un uniforme qui collait à leur peau tel un tatouage indélébile. Les émigrants. Je m'en souviens. Ils étaient 100 ce matin-là sur les frontières de Pologne, les émigrants d'Arizona, avec leur cœur au bout des pognes. Et on les comptait lentement, comme on compte la galette, en paquets de 10 et de 100, avec le doigt sur la gâchette.
Chœur Raymond Saint-Paul, l'orchestre de la radiodiffusion française, sont dirigés par le compositeur Léo Ferré, suite et fin de Sac et de Cordes, demain. En 1965, les yéyés ont envahi le marché variétistique français. Exit les Croulants et autres idoles à papa, la jeunesse a pris le pouvoir en portant tout dans sa lame qui se voulait de fond, opérant ainsi une sélection naturelle puisque certains ont résisté. En 1965, France Gall chantait Gainsbourg, n'écoute pas les idoles, chanson à message au milieu du ronron Bubblegum. Gainsbourg lui avait prouvé qu'il pourrait se tirer de tous les courants, car il le savait bien, la nouveauté, c'est vieux comme le monde.
Serge Gainsbourg, vous célébrez vos 20 ans de chanson.
On garde en effet au Zénith en 1989 l'homme à la tête de chou. Gainsbourg aurait aimé détruire certaines de ses chansons. Ferré, radioscopé le 1er mai 80, lui, eût préféré une autre vie. Plus seul peut-être, mais peinard, quoique, allez savoir.
Quand on me dit tu recommencerais, je dis non, parce que s'il fallait recommencer en sachant tout ce qui va se passer, je ne le ferais pas, parce que c'est un peu monstrueux. Mais au moment où on le fait, si je devais recommencer à 30 ans, par exemple, en 1950, ou même lorsque j'ai commencé fin 46 au Bœuf sur le Toit, à cabaret, à mon 8e à Paris, je dirais non. Mais à ce moment-là, c'était possible. On peut. J'ai un métier très difficile, mais on croit au Père Noël tous les matins. Vous comprenez? On se dit, ben ça va pas, mais ça va aller dans cet après-midi, ça va aller dans deux jours, ça va aller. Et puis le temps passe comme ça. Et c'est pour ça qu'on accepte toutes ces règlements de la vie et du destin et qui font que on ne sait pas ce qui va arriver, et parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver, on accepte que ça arrive très très longtemps après, vous comprenez, que ça dure longtemps. Je ne me laisse pas faire, mais j'ai appris que j'avais une patience extraordinaire, et je ne le savais pas, et je me laisse faire. Je me suis laissé faire longtemps par des gens qui avaient des idées derrière la tête, et ça c'est abominable. Et je ne me rendais pas compte tellement à ce moment-là que ces gens avec qui je vivais, ou avec qui j'étais censé vivre, des fois je faisais semblant, avaient des idées derrière la tête. C'est abominable, vous savez, les gens qui ont des yeux derrière les yeux. Vous savez. Voilà. Non, ça n'est jamais très clair, c'est pour ça qu'on se trompe. Vous savez, l'écrivain, enfin, l'artiste, soit un parolier ou un musicien ou un peintre, enfin, ils se regardent, ils se prennent évidemment individuellement pour le plus grand peintre, le plus grand parolier. Ils se regardent et c'est un peu l'histoire de Narcisse, bien sûr. Et en définitive, on se casse la gueule dans ce miroir. Et vous savez, si on ne se prenait pas le matin en se levant pour le first, cantoniste, on ne ferait rien du tout. Puis en définitive, on se rend compte qu'on n'est pas grand-chose.
Certains de mes détracteurs m'ayant accusé de vulgarité, j'ai écrit à leur intention une chanson que j'ai appelée « Chanson vulgaire ». Pour avoir droit à faire ton rond, à te dérouler dans ta maison, t'as payé. Pour avoir droit à respirer l'air pur qu'empeste tout ton quartier, t'as payé. Pour avoir droit à faire pousser les mômes, t'aurais bien fait passer, t'as payé. Pour avoir droit à faire l'amour avec un sac et rien autour, t'as payé, si t'as payé, c'est que t'avais de quoi. Alors ne te plains pas. Pour savoir que le carnaval, ça se passe pas à Carnavéral, t'as payé. Pour savoir que la môme Vénus, ça peut se trouver dans l'autobus, t'as payé. Pour savoir que la margarine, ça tourne plus vite que Gagarine, t'as payé. Pour savoir que telle ou telle star sera télévue par telle star, t'as payé, si t'as payé, c'est que t'avais de quoi. Pour écouter à la radio dégouliner du Moreno, t'as payé. Pour lire dans un journal français que Margaret a ses anglais, t'as payé. Pour savoir que la Soraya va dire partout de la Pucha, t'as payé. Pour voir à la télé, moi, ça, l'État, c'est toi, l'État, c'est moi. T'as voté, si t'as voté, c'est que t'avais le choix. Alors, c'est une merde de toi.
Voilà, ça s'appelle en fait T'as payé, et c'était en 1963 à l'ABC. Léo Ferré, Serge Gainsbourg, nous les retrouvons demain. Merci à Pierre Raillon et Guy Michel Alain Barthes.